Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des cendres commencera l'entraînement du carême le 2 mars. Vous célébrerez la joie de la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 17 avril. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 26 mai. La Pentecôte sera fêtée le 5 juin. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 19 de ce même mois. Le dimanche 27 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je me réjouis de cette vieille tradition très ancienne de l'annonce de la Pâque et des fêtes mobiles de l'année soit reprise dans le nouveau missel. C'était très dommage d'avoir abandonné cette tradition de la sanctification du temps. Au début de l'année, et particulièrement le jour de l'Épiphanie, sont annoncées les fêtes du Seigneur, centrées sur la résurrection du Seigneur, jusqu'au nouvel Avent qui annonce la reprise du cycle liturgique. C'est vraiment le signe que notre année, que notre temps doit être sanctifié, c'est-à-dire centré sur le Christ. Nous ne sommes pas dans un temps païen, nous ne sommes pas dans un temps humain seulement, nous sommes dans un temps qui a été habité par Dieu lui-même. Un temps qui est centré vraiment sur le Christ. Il est cette expression est tellement pleine, tellement forte, tellement grande, il est la clé du cosmos et de l'histoire. Le Christ Jésus, qui est le oui de Dieu à l'homme, est en même temps le oui de l'homme à Dieu. Il est l'union profonde en laquelle l'alliance est renouvelée pour toujours entre Dieu et les hommes. Tout un jour, cette expression de saint Paul est si forte, tout un jour sera récapitulé dans le Christ pour être introduit au cœur de Dieu. Lui qui, dans son ascension, est déjà allé s'asseoir à la droite du Père, de toute éternité, il est à la droite du Père, mais l'humanité sainte de Jésus a été introduite à l'intérieur, au cœur même de la divinité, par l'ascension du Seigneur. Et tous, nous suivrons ce chemin pour être nous-mêmes introduits au cœur de Dieu. Et pas seulement individuellement, mais tous ensemble, comme une humanité réunie en un seul corps. C'est ce que les mages venus d'Orient sont venus adorer, sans savoir les mots pour le dire, bien entendu. Sans savoir même, au moment où ils partaient, ce qu'ils découvriraient et devant qui ils se prosterneraient. C'est fascinant et c'est sans doute le premier grand étonnement dans cette fête de l'Épiphanie, le départ des mages. Ils sont partis, ils se sont mis en route. Non seulement ils se sont mis en route, mais ils ont pris en partant tout ce qu'il fallait pour se prosterner devant celui qu'ils découvriraient. Sans savoir encore ni son nom, ni à quoi il ressemblait, ni de près ou de loin qui il était. Les mages sont des savants comme il y en avait beaucoup dans ce temps-là, qui, scrutant les étoiles, cherchent le sens des choses, cherchent le sens de l'histoire, cherchent le sens de l'humanité. Mais ces savants ne sont pas des sachants. Ils cherchent, et ils cherchent pour se mettre en route, ils cherchent pour se prosterner, ils cherchent pour aller plus loin. Ils cherchent parce qu'ils sentent qu'il y a plus grand qu'eux. C'est si fort aujourd'hui, cette recherche humble qui accepte de se mettre en route vers plus grand. Nous sommes tellement facilement enfoncés dans nos certitudes. Nous sommes tellement facilement enfoncés dans une habitude d'un temps qui ronronne. Voilà, nous avons fêté Noël, nous avons fêté le premier de l'an, et puis ça recommence. Et puis cette année, non pas Pâques ou les grandes fêtes du Seigneur, mais les élections présidentielles et puis le train-train de la vie ordinaire. Ordinaire difficile, ordinaire dérangé par ce fichu microbe, ordinaire abîmé par les épreuves de la vie, mais finalement cette vie dont nous n'attendons rien d'autre que ce que nous pouvons en tirer pour nous. Les mages, qui sont païens pourtant encore, et les saints se mettent en route continuellement pour quelque chose qui va plus loin. La Vierge Marie est sans cesse en route vers celui qu'elle porte. Elle le porte jusqu'à Élisabeth, elle le porte jusqu'à Bethléem, elle accueille les bergers, elle est sans cesse en route vers celui qui la précède toujours. Joseph, à l'école de Marie, est toujours en route, toujours plus loin, toujours plus grand, toujours plus haut. Il n'est jamais installé dans une certitude, il n'a pas le temps de s'installer dans une certitude, et encore moins dans un train-train quotidien. Il est toujours dérangé, par des épreuves, mais des épreuves qu'il reçoit de Dieu comme autant d'occasions de monter plus haut, d'aller plus loin, de manifester plus profondément son humilité, son attachement au Seigneur. Qu'attendons-nous au fond de cette année nouvelle? Est-ce que nous attendons seulement les résultats des examens de nos enfants ou de nos petits-enfants? Est-ce que nous attendons simplement de savoir les résultats des élections ou bien savoir comment nos affaires vont évoluer? Est-ce que nous sommes passionnés par la progression de l'Évangile dans le monde? Est-ce que nous croyons que l'Évangile a encore aujourd'hui quelque chose à dire au monde? Je suis toujours fasciné par des catéchumènes qui nous dérangent, des catéchumènes qui nous bousculent, des catéchumènes qui se mettent en route sans savoir encore ce qu'ils vont découvrir, mais ils ont entendu d'une manière ou d'une autre, chacun son étoile, chacun sa manière, chacun sa voix. Mais ils ont entendu cet appel à aller plus loin. Ils ont senti que les choses humaines ne pouvaient pas les satisfaire. Ils avaient l'intuition que plus grand qu'eux donnait sens à leur vie. Alors ils se sont mis en route. C'est impressionnant, les premières séances avec des catéchumènes qui se mettent en route, qui découvrent tout et qui acceptent de découvrir. Parce que la deuxième étape après cette étape décisive du départ, c'est la recherche, se mettre à l'école de l'écriture. Après s'être mis à l'école de la nature, de la recherche de Dieu créateur, d'un Dieu plus loin que nous, il y a l'école de l'écriture. Accueillir cette parole de Dieu qui, sous des formes variées dans l'Ancienne Alliance, a parlé par les prophètes et qui, aujourd'hui, par le Christ et par les saints, par les apôtres, se donne à nous pour nous ouvrir le livre de la vie. Ouvrir le livre de la vie. Lire l'Évangile, non pas seulement pour savoir la théologie, non pas seulement pour connaître des choses et pour comprendre des choses, mais pour découvrir celui qui est le Verbe, pour découvrir celui qui est l'origine de cette parole, pour découvrir celui qui donne sens à toute chose. Regardez comme c'est frappant. Ces maîtres en Israël qu'on a interrogés, ils savent que le Messie doit naître à Bethléem. Ils voient des mages, des savants qui viennent de loin pour se prosterner devant lui, et eux, les sachants, eux, les théologiens, eux, les maîtres en Israël, ne se dérangent pas. Ils ne vont pas adorer à Bethléem. Ils ne sont même pas allés voir, alors qu'ils sont à un jet de pierre de Bethléem, ils ne se sont pas dérangés pour aller voir. Ils auraient pu au moins être impressionnés, dérangés par cette venue des mages. Ah oui, Hérode est dérangé. Mais parce qu'il a peur pour son royaume, pour son petit pouvoir idiot et imbécile, parce qu'en réalité ce pouvoir n'est rien. Il a peur, il est jaloux de sa puissance ridicule, tellement jaloux qu'il fera tuer tous les enfants nés avant la date supposée de la naissance de l'enfant Dieu. Les mages, eux, cherchent, et quand ils ont ce qu'ils cherchent, ils se remettent en route sans cesse. Ils vont de l'avant. Partir, chercher, scruter les Écritures. Est-ce que nous prendrions cette année la résolution de lire l'Évangile? De lire l'Évangile, pourquoi pas déjà lire les textes du dimanche avant de venir à la messe? Pourquoi pas prendre un Évangile cette année et le lire pas à pas? L'Évangile de Saint-Luc, puisque nous sommes dans l'année de Saint-Luc. En lisant quelques textes autour pour nous aider à en saisir le sens, la signification profonde, que notre vie change réellement au contact de l'Évangile, que notre vie réellement se convertisse pour se tourner vers celui qui est à Bethléem, dans cette maison si pauvre. Ils se remettent en route et redécouvrent l'étoile qui les guide. Alors, en entrant dans la maison où s'arrête l'étoile, ils se prosternent après avoir vu l'enfant et sa mère. Ils se prosternent. Ils se sont mis en route, ils ont cherché, ils se prosternent. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que nous prenons bien conscience de cette réalité invraisemblable? Ils se prosternent, eux, les mages, des savants, ils se prosternent devant un enfant. Ils se prosternent devant un enfant dans une maison pauvre, un enfant et sa mère. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus incroyablement pauvre et simple? Ils ne se prosternent pas, ils ne cherchent pas à se prosterner devant quelqu'un de puissant. Après avoir vu un petit enfant dans une maison pauvre, ils auraient pu dire, ben non, c'est pas, excusez-nous de vous avoir dérangé, on cherchait quelqu'un d'important. Non, ils se prosternent devant cet enfant et leur ouvrent les coffrets. L'or, parce qu'ils reconnaissent le roi, l'encens, parce qu'ils reconnaissent le Dieu Ils ont entendu l'Esprit Saint qui, en eux, les poussait à terre en se prosternant. Et la mire, parce que, avertis par l'Esprit Saint, ils découvrent déjà que ce Dieu est cet enfant, et cet enfant qui va mourir. Mystère, mystère de l'homme savant qui se laisse habiter par l'Esprit Saint et qui découvre tellement plus grand que sa connaissance, une connaissance divine qui le dépasse complètement. Nous avons tellement de peine, nous autres, à accepter cette connaissance qui nous dépasse. Nous voudrions dominer, c'est le péché d'origine. Nous voudrions posséder, nous voudrions surplomber la réalité et la vérité. Non, c'est la vérité qui nous précède. C'est la vérité qui nous instruit. C'est la vérité qui nous jette à terre pour nous prosterner. Et de cette prosternation, nous nous relèverons dans la dignité de l'homme. L'homme libre est celui qui, à genoux, dit oui à celui qui est le plus grand. Comment la Vierge Marie accueille-t-elle les mages ? Sommes reportés à cette première lecture qui est comme un écho. L'Évangile ne dit rien sur la réaction de la Vierge Marie. Mais cette prophétie d'Isaïe est tellement significative. Tu verras, tu seras radieuse. La prophétie s'adressait à Jérusalem, mais tout Jérusalem aujourd'hui est comme rassemblé dans le cœur de la Vierge Marie. Un jour, dans le cœur de l'Église des saints, tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. La Vierge Marie sait que tout cela s'accomplit pour elle, mais que ça n'est pas pour elle, que c'est pour celui qui est son enfant, que celui qui est son enfant, le prince de la paix qu'elle tient dans ses bras, qu'elle serre sur son cœur, c'est celui qui vient pour sauver l'humanité. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. On lui donnera le trône de David, son père. Elle ne doutera pas plus de cette réalité quand elle verra son fils mourir sur la croix, dans les tortures effroyables du supplice de la croix. Marie continuera de croire au-delà de tout doute, d'espérer contre toute espérance. Elle croira que la victoire est totale et que l'amour a triomphé de la mort. Déjà, cette visite des mages est une annonce cachée mais réelle de ce que sera cet enfant, une lumière pour les nations, et pas seulement pour Israël, pour les nations tout entières, pour toutes les nations, pour toute l'humanité. Aujourd'hui, cet évangile s'adresse à toute l'humanité. Et comme le disait saint Paul tout de suite aux Éphésiens, ce mystère qui n'avait pas été dévoilé auparavant est désormais dévoilé, porté à la connaissance des hommes des générations actuelles, par les saints apôtres, par les prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. Croyons-le et soyons-en tellement bouleversés, l'immense majorité de ceux que nous croisons dans la rue, l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, ignore tout du mystère de Jésus, ignore tout du mystère de cet enfant Dieu. Oh, ils voient bien des sapins ou des crèches, mais pour eux, qu'est-ce que cela signifie sinon une vieille tradition qui n'a pas grand-chose à voir avec le monde moderne ? Et cependant, de ce monde, de ces gens que nous croisons dans la rue, se lèvent mystérieusement des catéchumènes, avertis comme en songe de suivre l'étoile qu'ils ont découverte. Est-ce que nous pourrions, nous autres, être des étoiles pour ce monde, être des apôtres pour ce monde ? Par notre vie, par notre attitude, mais peut-être aussi par notre parole, par notre manière de nous aimer les uns et les autres, par notre manière de vivre qui doit étonner le monde, qui doit détonner dans le monde actuel. Que cette épiphanie nous éveille à la foi, nous éveille au désir de devenir missionnaires, au désir de faire connaître aux nations ce mystère lumineux qui est la gloire de Dieu qui vient nous sauver parce qu'il nous aime. Amen.